Bonjour à tous, bienvenue sur l'Europe en direct, la chronique sur l'Union européenne avec le service des relations internationales de la ville de La Roche-sur-Yon. Et on se retrouve pour la suite de notre échange avec notre invité portugais, Alexandre Moraes. Alexandre, la semaine dernière, vous nous avez présenté l'évolution du Portugal après 40 ans d'entrée dans l'Union européenne. Et vous aviez terminé en nous parlant des défis auxquels fait face le Portugal aujourd'hui. Alors on a hâte, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ?
Bon dia. En effet, on peut parler de plusieurs défis. Je commencerai pour le chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage au Portugal est relativement bas, autour de 6%. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement l'accès à le travail, c'est surtout les conditions. Les salaires restent assez bas, surtout pour les jeunes diplômés. Et parfois, il y a un décalage entre les qualifications et les opportunités proposées. C'est pour ça que beaucoup de jeunes partent.
En effet, vous nous l'avez dit, hein, plus d'un tiers des 15-29 ans qui partent. Mais pourtant, on dit que le Portugal est l'un des meilleurs pays de l'Union européenne par rapport à la qualité de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, c'est vrai que le Portugal est souvent considéré comme un pays avec une très bonne qualité de vie, comme le climat, la sécurité, les rythmes de vie. Mais aujourd'hui, il y a un contraste, une bonne qualité de vie, mais des conditions économiques qui ne suivent pas toujours.
Alors, est-ce que ça a eu des conséquences justement sur la couleur politique du Portugal lors des dernières élections présidentielles qui ont eu lieu en ce début d'année 2026 ?
Oui, le 8 de février dernier, le socialiste António José Seguro a gagné le second tour des élections présidentielles au Portugal avec 66,8% de suffrages face au leader d'extrême droite André Ventura, fondateur du parti Chega, ça suffit, qui a eu un score de 33,2%.
Alors, je précise, ça suffit, c'est pas toi, c'est pas vous hein, qui dites ça suffit, c'est le nom du parti Chega qui veut dire ça suffit. Alors, justement, si l'extrême droite a eu 33,2% de vote, elle n'a pas remporté les élections, mais c'est quand même un score assez élevé, non ?
Oui, bonne remarque. C'est la première fois depuis 1986 qu'une élection présidentielle s'est décidée lors d'une second tour au Portugal, mais surtout comme un peu partout dans l'Union européenne. On avoue une forte progression de l'extrême droite. En 2019, Chega n'avait obtenu que 1,29% des voix aux élections législatives contre 23,5% au premier tour de la présidentielle en janvier 2026, puis 33,2% au second tour.
Ouais, donc en effet, passer de 1,29% en 2019 à 33,2% en 2026, c'est énorme. Hein.
Oui, il y a aussi un mécontentement vis-à-vis de la classe politique.
Alors comment est-ce qu'on explique ce mécontentement ?
Bon, je pense que cette évolution s'explique par un ensemble d'insatisfactions accumulées. D'une part, il existe une perception d'injustice sociale. Beaucoup de personnes ont le sentiment de travailler, de cotiser toute leur vie et d'avoir ensuite des pensions de retraite très faibles ou de difficultés d'accès à des services essentiels. En même temps, il existe aussi l'idée que certaines aides sont attribuées sans critères suffisamment clairs, ce qui crée un sentiment d'inégalité.
Alors justement, vous abordez le sentiment des Portugais. Passons à cette opinion des Portugais sur leur quotidien. Commençons par la santé. En France, on a un grand manque de médecins. Qu'en est-il au Portugal ?
Bon, je vais parler plus globalement de services publics. Dans les domaines comme la santé ou l'éducation, il y a de plus en plus de Portugais mécontents car il y a de longs délais d'attendre. Et il n'y a pas assez de professeurs et de médecins, ce qui donne l'impression que les systèmes ne fonctionnent pas comme ils devraient.
Et au niveau économique, est-ce que ce dysfonctionnement se ressent aussi ?
Il a des pressions réelles, des salaires encore relativement bas, surtout en comparaison avec d'autres pays européens, et un coût de vie en augmentation. Par exemple, dans les cas de carburant, une grande partie du prix correspond à des taxes qui vont au gouvernement portugais, environ 55%, ce qui pèse fortement sur les budgets des familles.
Et lors d'un sondage auprès des citoyens européens récemment, les thèmes de préoccupation qui arrivent en premier sont la sécurité et l'immigration. Est-ce que c'est aussi le cas chez les Portugais ?
Oui, ça fait partie des sujets plus sensibles. La sécurité et l'immigration prennent de plus en plus de place dans les débats publics chez nous en Portugal. Au-delà des données réelles, ce qui compte souvent, c'est la perception des gens. Et lorsqu'il existe un sentiment de perte de contrôle ou d'injustice, et c'est là pour influencer les votes. On parle aussi de plus en plus des situations concrètes comme l'immigration irrégulière, avec conditions de vie difficiles et une augmentation des situations de précarité visibles dans les rues.
Alors on sait que souvent il y a une différence entre le ressenti et la réalité. Est-ce qu'il y a réellement une forte proportion d'immigrés au Portugal ? Et si oui, de quel pays viennent principalement ces immigrés ?
Bon, aujourd'hui, oui, il y a une augmentation d'immigration au Portugal. Historiquement, il y a toujours eu des gens qui viennent de pays lusophones comme le Brésil, l'Angola ou le Cap-Vert. Mais aujourd'hui, les débats se concentrent plus sur les nouvelles migrations, notamment en provenance du Népal, du Bangladesh et de l'Inde.
De l'Inde. De l'Inde. D'accord, ok.
C'est surtout dans ces contextes qu'on parle de conditions de vie parfois difficiles, avec des situations de logement précaires ou d'une forte concentration dans certaines zones.
Des zones géographiques dans les grandes villes principalement ?
Oui, c'est ça. Donc, ce qui a changé, ce n'est pas seulement l'immigration, c'est surtout son rythme, sa visibilité et les défis de l'intégration qui les accompagnent.
Alors, pour conclure, si on regarde vers le futur, comment voyez-vous le Portugal dans l'Union européenne dans les années à venir ?
Bon, je vois un pays avec beaucoup de potentiel. Le Portugal a montré qu'il sait évoluer et s'adapter. À présent, je pense que la prochaine étape, c'est de s'affirmer davantage. Non seulement suivre les autres pays, mais aussi de marquer dans certains domaines. Et surtout, parvenir à créer des conditions pour que les jeunes aient envie de rester. Car la mobilité est un avantage, mais rester devrait aussi être un choix et non une difficulté. Et peut-être que c'est là les véritables défis européens. Créer des opportunités sans obliger personne à partir.
Eh bien, merci pour cette photographie du Portugal en 2026. Je rappelle que c'est le regard de notre invité, le regard d'un Portugais de 30 ans et non d'un sociologue ou d'un chercheur. Donc merci Alexandre pour cette vision du Portugal et cette belle aperçu.
Merci pour l'invitation et boa semana.
Bonne semaine, merci, en portugais, hein, avec l'accent, c'est super, on voyage en même temps. Et rendez-vous pour notre prochaine chronique de la semaine prochaine avec la présentation du programme des activités du Mois de l'Europe à La Roche-sur-Yon et dans quelques communes de l'agglomération. À bientôt!